Chapitre 9e. L'homme au cigare et la jeune femme en deuil, après avoir passé à contrebord l'un de l'autre, comme disent les marins, continuèrent leur chemin chacun de son côté pendant une dizaine de pas, au bout desquels l'homme au cigare, semblant revenir à sa première pensée, se retourna pour regarder encore la femme en deuil. Celle-ci, à ce moment même, se retournait aussi, mais voyant l'homme qu'elle avait remarqué faire le même mouvement, elle détourna brusquement la tête et continua sa route d'un pas un peu hâté. Cependant, alors qu'elle allait traverser la rue pour entrer dans le jardin du Luxembourg, elle ne put s'empêcher de regarder de nouveau derrière elle. Aussi vit-elle de loin l'homme au cigare debout à la même place et la suivant des yeux. Assez impatientée d'avoir été, pour ainsi dire, surprise deux fois en flagrant délit de curiosité, elle rabaissa vivement son voile noir et, activant encore sa marche, elle entra au Luxembourg. L'homme au cigare, après un moment d'hésitation, revint sur ses pas, les précipita, atteignit bientôt la grille et aperçut de loin la jeune femme se diriger du côté de la grande allée de l'observatoire. Un de ces instincts singuliers, qui souvent nous avertissent de ce que nous ne pouvons voir, donna à la jeune femme la presque certitude qu'elle était suivie. Elle hésita longtemps avant de se résoudre à s'assurer de la chose. Elle allait céder à cette tentation lorsqu'elle entendit derrière elle une marche assez pressée, puis quelqu'un passa à ses côtés. C'était l'homme au cigare. Il fit une vingtaine de pas devant lui, puis il revint en ligne directe vers la jeune femme. Celle-ci obliqua subitement à gauche, son poursuivant fit la même manœuvre, s'approcha résolument, et ôtant son chapeau, il lui dit avec une courtoisie parfaite « Madame, je vous demande mille pardons de vous aborder ainsi. » « En effet, monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. » « Madame, permettez-moi une question. » « En vérité, monsieur, je ne sais cette question, madame. Je n'aurais pas à vous l'adresser si j'étais assez heureux pour que votre voile fût relevé. » « Monsieur, de grâce, madame, ne croyez pas qu'il s'agisse d'une impertinente curiosité. Je suis incapable d'un pareil procédé, mais tout à l'heure, en passant près de vous dans la rue Vaugirard, il m'a semblé vous avoir déjà rencontré. » Et comme c'était lors d'une circonstance extraordinaire. « Mon Dieu, monsieur, » reprit la femme en deuil en interrompant l'étranger, « s'il faut vous l'avouer, j'ai cru aussi m'avoir déjà rencontré. » « Oui, monsieur. » « Au Chili. » « Il y a 8 mois environ. » « À quelques lieues de Valparaiso. » « À la tombée du jour. » « Au bord d'un lac encaissé de rochers. » « Une bande de bohémiens attaquait une voiture où vous étiez, madame. » L'arrivée d'un convoi de voyageurs montés sur des mulets dont on entendait les sonnettes depuis quelques instants a fait fuir ces bandits. Ce convoi qui venait de Valparaiso nous croisa. À peu près comme je vous ai croisé tout à l'heure dans la rue de Vaugirard, madame, dit l'homme au cigare en souriant. Et pour plus de sûreté, un des voyageurs et 3 hommes de l'escorte proposèrent aux personnes de la voiture de les accompagner jusqu'au plus prochain village. Et ce voyageur, monsieur, c'était vous ? « Maintenant, je me le rappelle parfaitement, quoique je n'ai eu le plaisir de vous voir que pendant quelques instants, car la nuit vient vite au Chili. Elle était fort noire lorsque nous sommes arrivés au village de Balameda, si j'ai bon souvenir, madame. Je ne me rappelais pas le nom de ce village, monsieur, mais ce dont je me souviens et me souviendrai toujours, c'est de votre extrême obligeance, car après nous avoir escortés jusqu'au village, vous avez dû rejoindre en toute hâte votre convoi qui se dirigeait vers le nord, il me semble.
Oui, madame.
Et vous l'avez, j'espère, rejoint sans accident, sans mauvaise rencontre. Nous avions assez double crainte. Les chemins sont affreux à travers ces précipices, et ces bohémiens pouvaient être restés dans ces rochers. J'ai atteint le convoi le plus paisiblement du monde, madame. Il n'en a coûté à ma mule que de hâter un peu sa marche. « En vérité, monsieur, avouez qu'il est fort singulier de renouer dans le jardin du Luxembourg une connaissance faite au milieu des solitudes du Chili. »«
Fort singulier, en effet, madame.
Mais voici qu'il commence à neiger. Me permettez-vous de vous offrir mon bras et un appui sous ce parapluie ? J'aurai l'honneur de vous conduire, si vous le désirez, jusqu'à la prochaine place de fiacre. »« Je crains, monsieur, d'abuser de votre complaisance, » reprit la jeune femme, en acceptant néanmoins l'offre de l'étranger. Il est dit qu'au Chili comme ici, je mettrai toujours votre courtoisie à l'épreuve. Ce disant, tous deux se dirigèrent en se tenant par le bras,
vers la place de fiacre située proche de l'une des galeries du théâtre de l'Odéon. Il ne restait qu'une seule voiture, la jeune femme y monta, son compagnon par discrétion semblait hésiter à monter après elle. « Eh bien, monsieur, lui dit-elle avec affabilité, qu'attendez-vous? Il ne se trouve pas d'autre voiture sur cette place, ne profiterez-vous pas de celle-ci?
Je n'osais, madame, vous demander cette faveur, répondit-il en montant avec empressement. Puis il ajouta, « Quelle adresse vais-je donner au cocher, madame ?»«
Veuillez seulement, reprit la jeune femme avec un léger embarras, me faire conduire à l'extrémité de la rue de Rivoli, vers la place de la Concorde. J'attendrai sous les arcades que la neige ait cessé. Quelques affaires m'appellent dans ce quartier. »
L'ordre donné au cocher, la voiture se dirigea vers la rive droite de la Seine.
« Savez-vous, monsieur, reprit la jeune femme, que je trouve notre rencontre de plus en plus singulière. »
Tout en reconnaissant, madame, la singularité de cette rencontre, elle me semble encore, je vous l'avoue, plus agréable qu'étrange.
Allons, monsieur, entre nous, pas de galanterie, cela est bon pour les gens qui n'ont rien de mieux à se dire, et je vous avoue que si vous êtes disposé à satisfaire ma curiosité, je ne vous aurai pas adressé la moitié de mes questions lorsqu'arrivera le moment de nous séparer.
Il ne fallait pas me dire cela, madame. Vous me rendrez très diffus dans l'espoir que votre curiosité
m'inspirera le désir de vous rencontrer une seconde fois. Si vous ne m'avez pas tout dit aujourd'hui, monsieur, est-ce là votre pensée ?
Oui, madame.
La femme en deuil sourit mélancoliquement et reprit : Mais pour procéder par ordre, qu'alliez-vous faire au nord du Chili ?
Je revenais de ces contrées désertes lorsque je vous ai rencontré il y a 8 mois, et comme je sais que les voyageurs qui se rendent dans ce pays sont fort rares, vous comprendrez et vous excuserez ma question si toutefois elle vous semble indiscrète.
Avant de vous répondre, madame, il faut absolument que je vous dise quelques mots de mon caractère, sans cela vous me prendriez pour un fou.
Comment cela, monsieur ?
Je dois vous déclarer, madame, que je suis possédé, dévoré, d'un besoin d'activité, de locomotion, qui depuis quelques années surtout ne me permet pas de rester 1 mois dans le même endroit.
En un mot, j'ai la passion, la monomanie, la rage des voyages.
Ah, monsieur ?
Quoi donc, madame ?
En vérité, les singularités s'accumulent dans notre rencontre.
Pourquoi cela ?
Ce besoin invincible d'agitation, de mouvement, cette aversion du repos, j'éprouve cela comme vous, monsieur, et comme vous encore depuis quelques années, j'ai trouvé dans les voyages d'utiles distractions.
Et la jeune femme étouffa un soupir.
Oh, n'est-ce pas, madame, que cette vie errante, aventureuse, est une belle et curieuse vie ?
N'est-ce pas qu'une fois que l'on a senti son charme, toute autre existence est impossible ?
Oui, vous avez raison, monsieur, reprit tristement la jeune femme. Au milieu de cette vie active, l'on trouve du moins l'oubli. Reste-t-on, au contraire, inactif ? Si l'on a des souvenirs fâcheux, ils nous assiègent et nous dominent bien plus sûrement. Aussi ai-je le repos en horreur.
Que dites-vous, madame ?
Ainsi que moi, vous auriez horreur de ces existences calmes, mornes, engourdies, qui ressemblent à celles de l'huître sur son banc ou du colimaçon dans sa carapace ?
Ah, monsieur, n'est-il pas vrai ?
Le mouvement, l'action, jusqu'au vertige, car le vertige vous enlève à de tristes réalités.
Tandis que la torpeur, l'immobilité, c'est la mort.
C'est pire que la mort, monsieur, car l'on doit avoir conscience de cette espèce de léthargie de l'âme et du corps.
Et pourtant, madame, s'écria le compagnon de la jeune femme, cédant à de secrets sentiments qu'il pouvait à peine contenir,
n'y a-t-il pas des personnes, que dis-je, ce ne sont plus des êtres animés, qui resteraient des mois, des années entières attachés au même lieu, dans une sorte d'extase contemplative, goûtant ce qu'ils appellent le charme du far niente ?
S'il y a de ces gens-là, monsieur, s'écria la femme en deuil avec une douloureuse vivacité,
de ces gens qu'une incurable indolence cloue pour la vie au même endroit, et qui ont l'audace de vous vanter les béatitudes de leur apathie, misérable apathie qui paralyse toute énergie, toute résolution généreuse, funeste paresse, morale et physique, qui aboutit toujours au plus cruel, au plus impitoyable égoïsme.
Oui, oui, monsieur, il y a de ces gens-là, je ne le sais que trop.
Vous aussi, madame.
Comment ?
Auriez-vous été aussi à même de connaître tout ce qu'il y a d'intraitable chez ces caractères dont la force d'inertie finit par triompher des volontés les plus tenaces. Et la femme en deuil et l'étranger se regardèrent un moment avec une sorte de stupeur, tant ils paraissaient frappés de l'étrange coïncidence de leur destinée.